Alors que les premières marques de bronzage vous rendent ridicule sous la douche, vous vous dites c'était mieux avant. Eh ben, c'est votre faute aussi, hein, qu'il dit de mettre un maillot. Allez, tout le monde à poil, et là, vous direz, c'était mieux après. Voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Une émission loin d'être en solde ce soir, car même si les chroniqueurs rêvent d'être sur la plage pour bronzer en sirotant des glaces, ils restent en selle pour vous parler de vulve. Voilà. Ok. Bon, et bah, sommaire. Qu'importe si des talons s'enfoncent dans le bitume fondu, qu'elle affronte la chaleur pour mieux profiter de la clim de ses magasins préférés. Bonsoir Caro, on parle
Bonsoir.
De quoi ?
Bonsoir, et oui, il rythme nos achats depuis près de 150 ans, on parlera ce soir des soldes.
Ok, lui a trouvé une solution pour se refroidir, lécher. Bonsoir Mathias, quel est ton sujet ?
Bonsoir, ce soir je parlerai des glaces.
Ah d'accord, La chaleur risque encore de monter. Car c'est du bout des lèvres qu'elle nous parlera de son sujet. Bonsoir Pauline, c'est quoi
Bonsoir.
Ce sujet ?
Eh ben, le tabou autour de la vulve, les origines, pourquoi ?
Okay.
On n'en parle pas.
Ben oui, on va en parler. Hein. Voilà, maman, si tu m'écoutes. Une histoire très chaude, donc ce soir, on parlera même de bronzage, de vélo et de plage, en deuxième partie avec Florian, Sandra et Jérémy. Donc bonsoir les amis, puis bonsoir aussi à Olivier dans le public et à Alan, venu soutenir les petits camarades. Bravo ! Sans oublier deux Grâles qui nous parlent de Sodome et Gomorre et d'amour sans sexe. Tout un programme. Allez, il est temps de commencer. Voici la première partie de CMA. La saison prochaine, on aura le droit à une nouvelle collection de chroniques. Mais d'ici là, c'est moins 70% sur les sujets et plus 200% sur les vannes. Voici la chronique de Caro.
Solde. Ce soir, le monde est en solde. J'ai compté mes points, je suis gold.
Qui c'est ?
Tout doit disparaître.
On reconnaît la voix un peu.
Tété ?
Ouais, c'est Tété.
Ah oui, bien.
Alors, Caro ?
Je ne sais pas. Eh bien, oui, les soldes, synonyme de...
c'est les soldes Tété, dit... Voilà.
Oh,
bah, oui, oui,
c'est... bravo.
Florian est en forme.
Synonyme de pleurs, d'hystérie, de sorte de rituel consacré, pour ma part en tout cas, de joie mais aussi de grosses déceptions. Pour 3 Français sur 4 qui resteraient quand même fidèles à cette grande messe. Mais quelles sont les origines des soldes ? Eh bien en France, les soldes sont apparus à la fin du 19e à Paris. À l'époque, Simon Manoury décide de bousculer le traditionnel schéma des ventes de produits manufacturés. Il fonde alors le Petit Saint-Thomas, un des premiers grands magasins, avec, au début, des articles vendus à prix fixe, ce qui ne se faisait pas à l'époque, clairement affichés dans des rayons bien achalandés.
Tu veux dire qu'avant, les prix, c'était oh, pas cher, je te prends,
c'était
moi cher.
C'était un peu le, voilà, le marché, c'était ce qu'on appelait les halles, donc en fait, c'était au produit et
un
peu
à la tête du client.
À l'instinct. Voilà. Mais ce nouveau schéma de vente entraîne rapidement la multiplication des produits et donc des invendus. Il fallait pourtant libérer de la place, récupérer de la trésorerie pour pouvoir acheter les collections à venir. C'est ainsi que Simon Manoury organise un événement commercial de déstockage massif qui s'appelle les soldes.
Donc tu veux dire que c'est français les soldes ?
C'est bien français. Et oui,
on cocorico. On a inventé ça, cocorico.
Évidemment. Cela a vite été repris par les grands magasins de l'époque comme le Bon Marché, Printemps, le Bazar de l'Hôtel de Ville et la Samaritaine. Alors on raconte que le terme les soldes viendraient d'un employé, Aristide Boussicot, un prénom bien français, qui aurait laissé tremper un drap dans l'eau en le laissant tomber. Comme le tissu était invendable, il en aurait fait des morceaux plus faciles à vendre, à la criée, et pour le coup, avec un prix plus bas, plus facilement vendable.
Ouais. Alors, le mot solde, oui.
Le mot solde, à la base, désignait en argot un bout d'étoffe non vendu. Un petit bout de tissu.
Ah d'accord.
Voilà.
Ok.
À l'origine, c'est un mot qui était masculin et singulier, mais c'est au début du 20e que le terme est soudainement devenu pluriel.
Et féminin.
Et non.
C'est une solde ?
Un solde.
Un solde.
Bah, en fait, c'est les soldes. C'est...
D'accord.
Au pluriel, ça camoufle un peu le... Alors, aujourd'hui, les dates de soldes sont fixées dans chaque département par les préfets, hyper réglementées. Elles peuvent durer jusqu'à 6 semaines. Elles sont 2 fois par an. Et les... il faut savoir que les lois concernant les soldes datent quand même de 1906.
Elles n'ont pas bougé depuis ?
Non.
Ah oui.
Les dates, enfin, les soldes, c'est quand même hyper vieux. C'est pas du tout dû à une hausse de la consommation des années 90, etc. C'est hyper vieux, en fait. Et pourquoi 2 fois ? Eh bien, en fait, ce serait même ce même Aristide Boussicot, toujours lui, on le salue, qui, à la fête, qui pour les fêtes de fin d'année, aurait voulu remplir des rayons vides avec ce même linge blanc qu'il avait du mal à vendre. Il l'aurait vendu au rabais, c'est pour ça qu'il y a les soldes d'hiver.
Okay.
Enfin, les soldes d'été sont arrivés, puisqu'en fait, on arrive en fin de collection, en fin de période, qu'il n'y a plus rien à vendre. Voilà. Et alors, ça, c'est une petite question pour...
les spécialistes que nous sommes.
Exactement.
Bien sûr.
Est-ce que les soldes ont toujours été, sont toujours, pardon, aussi intéressants qu'il y a 10 ans ou 20 ans ? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut toujours faire les soldes, en fait ?
Ouais. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. C'est...
Voilà, voilà, il y a un peu ça, les, entre les ventes privées, les soldes, etc. Vous faites les soldes, vous ?
Oui.
Non. Oui, non. C'est partagé un peu. Ouais, c'est un peu 50-50, quoi.
Moi, je suis le mercredi matin à 10h à l'ouverture du boutique, le premier jour des soldes.
Ah, ah la vache. Alors moi, je faisais ça il y a quelques années. J'avais même un petit plan d'attaque. Je mettais des
post-it
dans ma voiture où je mettais partie 1, partie 2, partie 3.
Parce que tu vas faire du repérage avant, c'est ça?
Oui.
Okay.
Voilà, et puis à 9h30, on attaque, quoi. Ça faisait un peu psychopathe.
Et ils augmentent les prix avant pour solder ou non?
Bien, c'est bien ça le problème, Bruno. Je te dirais que oui et non, les soldes ne sont plus aussi intéressants ou intéressantes, du coup... Oui et non, il y a le scandale des fausses promos qui persiste toujours d'ailleurs dans les grandes chaînes. Donc la législation s'est durcie, mais en fait elle s'est durcie surtout pour les achats sur Internet. Les achats en vrai, eux, en fait, n'ont pas de législation.
Vérifier,
et ça dépend des enseignes et du magasin, en fait.
D'accord.
C'est le magasin qui décide de un petit peu comment ça se passe. Alors le problème des grosses enseignes comme Zara ou H&M, c'est qu'elles se cachent derrière des excuses de taxes ou de prix affichés qui correspondent au prix du pays d'origine, en fait. Zara étant espagnol et H&M étant suédois. Donc, ça passe un petit peu au travers. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de faire des gros repérages avant et de bien noter les prix, parce que pas plus tard que samedi dernier, à Zara, on trouvait cette arnaque. J'avais acheté un petit body, ça n'intéresse personne, mais c'est pas grave. J'ai acheté un petit body, il était à 9,99€, et bien il l'a augmenté à 15,99€ pour mettre un rabais à 9,99€.
Ah oui. Super, ils
voilà,
prennent
les
vraiment
gens
pour
se
des gogos,
trompent en croyant, voilà, une illusion, on voit le prix, on est content. Ou même juste l'effet étiquette, en fait. On est content quand on voit une étiquette rouge, on pense que c'est génial, mais en fait, il faut vraiment préparer, faire un petit plan d'attaque pour avoir des soldes corrects.
Très bien.
Voilà.
Ok, eh bien merci pour toutes ces informations, Caro. Allez, vous avez peut-être déjà entendu parler de Sodome et Gomorre. Alors, ce n'est pas une pratique ni une maladie, hein, mais là où il y a la genèse, il y a du plaisir. Eh bien, voici le Graal.
Question de Luc, c'est quoi Sodome et Gomorre ?
Ce sont deux villes qu'on retrouve dans la genèse, et il s'y passe des choses pas jolies jolies. Alors, autant vous dire que, suivant l'histoire, vrai ou pas, c'est pas la question, dans ces deux villes, Sodome et Gomorre, on se levait dans la luxure, et qui plus est, dans toutes les positions, d'où le nom commun tiré d'une des deux villes. Bref, ce genre d'activité, Dieu, c'est pas son truc. Et comme c'est lui qui commande, bah il va faire un peu de ménage. D'abord, il envoie des anges à Abraham, on lui dit qu'il va enfin avoir un enfant avec sa femme, tant il serait temps. Et puis, comme ça, dans la conversation, on place l'info comme quoi Dieu va raser deux villes. Là, Abraham tique un peu, il demande si on peut pas laisser quand même quelques personnes en vie, histoire de rebâtir ces villes. Là, ça négocie sévère, hein. On propose 50 personnes, et puis non, ce sera que 10. Parmi elles, un certain Lot et sa famille. Ils devaient partir de la ville sans se retourner, mais la femme de Lot a regardé derrière. Alors elle est devenue un pilier de sel, alors que les deux villes sont détruites en cendres sous ses yeux.
C'était le Graal, à retrouver aussi maintenant sur Apple Podcast et Google Podcast, en plus de Spotify et du site radio-g.fr. On n'arrête pas le progrès. Allez, vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. On dit de lui qu'il est fondant et craquant avec un bâton rigide au milieu. Alors, je ne parle pas du chroniqueur, mais de l'objet de sa chronique. Voici le sujet tout frais de Mathias.
Je fais des glaces à tous les goûts, mais aucun ne me dégoûte. Granit à sorbet, je vais te régaler. Je fais des glaces à tous les goûts, mais aucun ne me dégoûte. Et surtout, n'oublie pas la carte de fidélité.
Joica,
J'ai voulu faire plein de jeux de mots et je me suis retenu, tu vois, de faire là, toutes ces allusions,
c'est ça.
Tout ça. Et tout, mais toi, tu l'as fait.
Ah, moi, je ne recule devant aucune facilité.
Oui, non, mais bravo.
Jamais. Et encore, c'était soft. En
oui.
C'était
gentil.
Attends, on n'est pas encore aux chroniques de Pauline.
Du coup, alors, j'ai fait des recherches pour savoir d'où venait l'origine des glaces.
Du frigo.
Eh ben non, justement, ah pas bon du frigo. Et c'est très difficile de retrouver l'origine exacte parce qu'il y a plusieurs origines en fait de nos sorbets, de nos glaces. Donc il faut remonter déjà au 2e siècle avant Jésus-Christ, où la glace voit le jour en Chine. Pour garder en fait des boissons au frais, il y a un commerçant qui plongeait ses boissons dans des cuves d'eau salée. Et il y aurait une nuit où il faisait très très froid, c'était enneigé et tout, et ben les boissons, en fait, elles auraient gelé. Et ça aurait donné une idée de glace. Il aurait racheté du lait de chèvre, du miel, tout ça, et ça aurait fait les premières glaces, voilà. Donc ce serait l'origine de l'origine de l'origine de tout ça.
D'accord.
Alors, plusieurs siècles avant notre ère, les peuples arabes, quant à eux, avaient particulièrement, étaient particulièrement friands des charbets. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, ça s'écrit charbet.
Comme les sorbets, un charbet.
Alors, du coup, ouais, c'est des glaçons fruités. C'est du coup, ce qui est un peu à l'origine de nos sorbets à nous. Où on congelait alors le jus de fruits avec de la neige ou de la glace.
D'accord.
Donc, voilà. Et après, en 300 avant Jésus-Christ, à la cour d'Alexandre le Grand, la glace existait sous forme de macédoine de fruits. Et là encore, on utilisait de la neige pour refroidir en fait le mélange, pour que ça fasse vraiment l'effet glace. Il y avait beaucoup de neige apparemment à l'époque. Hein. Et on retrouve également en fait cette façon de faire dans l'Empire romain avec l'empereur Néron. Alors je ne sais pas qui est l'empereur Néron, j'ai regardé sur internet. Mais,
Bah, il est pas super sympa, mais.
Non, bah, il avait une tête pas très fun, effectivement. J'ai vu sa tête, je me suis dit, bon, je le connais pas, mais.
Il a brûlé une ville, non ?
Oui, il a fait.
Il a brûlé Rome, en fait.
Oui, entre autres.
D'accord, ok. Bah ouais, il avait pas l'air très sympa, effectivement.
Non. Mais il fait des glaces.
Donc, mais du coup, il a
du
fait
coup,
des glaces.
Du coup, il est sympa.
Il a un petit côté chouette.
Un petit côté sympa. Un petit côté agendas. Ok.
Et du coup, donc, il a repris la technique d'Alexandre le Grand avec les fruits écrasés mélangés avec du miel. On dit qu'il allait même jusqu'à chercher de la neige dans les monts et tout, et que c'était vraiment réservé aux riches.
Ah bah
et,
oui, tu
c'était vraiment quelque chose de très très précieux. Mm. Bon. En Europe et en particulièrement en Italie, clin d'œil.
Ouais.
Ah.
Vous irez faire un reportage bientôt là-bas.
Moi, je pense que oui, il va falloir qu'il y ait un reportage bientôt en Italie pour ça. On découvre en fait les desserts glacés à la fin du XIIIe siècle grâce à Marco Polo qui a ramené la recette de son voyage en Chine. Donc on revient à la Chine,
voilà,
justement, qui était à l'origine de tout ça. Les glaces étaient alors uniquement servies dans les cours et alors vous allez pouvoir m'éclairer sur les tables papales. Oui. J'ai cherché sur internet ce que c'était les tables papales.
Du pape.
Et ben j'ai bien plus ou moins deviné que c'était ça, mais il n'y avait pas de définition exacte de ça.
Bah, ça appartient au pape, sans doute,
ouais,
ou ça fait partie de la...
Parce qu'il mangeait
bien,
ouais.
Le pape. Donc...
Ouais, il avait l'air, hein. Bah, dis donc. Hein. Bon. Bon, enfin,
voilà. La casa des papales.
Aussi. Peut-être qu'il payait ses glaces avec Paypal, je sais pas. Hein. Peut-être aussi, on ne sait pas.
Là, c'est beau. C'est beau. En 1533, Henri II, et non Henri VI, roi de France, épouse Catherine de Médicis, originaire d'Italie, qui celle-ci emporte avec elle la recette dont elle a fait profiter le roi et toute la cour de France. Elle était sympa quand même. Et à la fin du 19e siècle, on commence à voir les premiers marchands de glace ambulants, et au même moment, un laitier américain a eu l'idée d'utiliser le surplus de crème de lait pour fabriquer de la glace, donnant ainsi naissance à l'industrie glaciaire américaine.
D'accord, du jusqu'aux États-Unis.
Ouais, il n'y avait pas encore la crème, tout ça, enfin ce côté crème glacée qu'on connaît aujourd'hui, ouais. C'est arrivé à ce moment-là. Okay. Est-ce que vous connaissez la différence entre la crème glacée, le sorbet et la glace à l'eau ?
Ah bah...
Bah il y a de la crème, dans la crème glacée, il y a de la crème et du lait,
sorbet,
etc. Sorbet, il n'y en a pas, c'est que de l'eau, oui, alors à l'eau, normalement,
mais
c'est la
coup,
même chose.
Mais la différence avec glace à l'eau ?
Oui, glace à l'eau, sorbet, je vois pas trop.
C'est compliqué.
Il y a là, vraiment la crème glacée, alors, c'est avec les œufs, il me semble, que vraiment,
ouais,
qu'il y a
c'est un peu plus
les
gras,
œufs,
quoi.
C'est un peu plus gras, c'est produit laitier et tout. Après, il y a la glace où c'est juste à base de produits laitiers, de sucre et de parfum. Après, il y a le sorbet qui est à base de jus de fruits mélangés avec de l'eau et du sucre.
Mm-hmm.
Et les
glaces à l'eau.
Et les glaces à l'eau, c'est vraiment juste du
de l'eau congelée.
Ouais, c'est de l'eau congelée avec du sucre et du jus de fruits. Enfin, c'est
d'accord.
Vraiment que du sucre et des arômes, quoi. C'est,
okay.
C'est très basique. Donc,
voilà. Okay.
Petit coucou à Olivier, du coup,
bah
qui
ouais,
nous écoute.
Qu'à faire. Très bien, merci Mathias.
Avec plaisir.
La prochaine chroniqueuse n'est pas venue depuis des mois, et pour cause. Elle travaillait son sujet d'une main de maître.
Oh non.
Oh là 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 là.
Elle voulait faire des recherches aussi profondes que possible en exposant bien les contours et toucher du doigt les points importants. Voici la chronique de Pauline.
Attends, qu'elle soit farouche, elle n'apprécie pas qu'on la touche. C'est ta vulve, elle est à toi. Vulve.
C'est de ma faute en même temps. Hein.
J'aurais dû
choisir un autre sujet.
Franchement, c'est ton sujet. Hein.
Alors, petit abricot, petite figue, petite prune, petit berlingot, petit minou, minette, hérisson, marmotte, nénuphar, buisson, bocage et mon fendu. Nous avons toutes sortes de petits mots pour désigner la vulve, effectivement, ce package féminin d'organes sexuels. Alors, petit sondage, est-ce que les femmes autour de cette table ont été sensibilisées à la vulve par leur famille, leurs parents? Est-ce qu'on vous a parlé de la vulve?
Bien
quand
sûr,
même,
on repart dimanche. Alors, comment va ta vulve?
Non, mais en tant qu'adolescente ou...
Ah, oui, en éducation sexuelle peut-être?
Ouais, voilà,
ou,
exactement. Ouais, sinon, non.
Si, après, un petit peu quand même.
Pas trop.
Moi, pas vraiment, franchement, zéro.
Je crois. En plus, religion chrétienne oblige,
oui.
C'est très très camouflé.
Et donc,
tout ça,
très très tabou. Alors, les origines de ce tabou, en fait, c'est depuis la nuit des temps. La sexualité des femmes est en fait considérée comme une source de maladie, de problèmes de santé, d'anxiété, d'ébression. Donc, les maladies psychiques et mentales étaient associé vraiment à cette sexualité féminine et donc relié aussi directement à l'hystérie. L'hystérie qui vient du mot grec pour utérus, en fait.
Ah, d'accord.
Donc les deux mots sont reliés.
Hystérie, utérus, c'est
voilà,
la même chose.
Voilà, exactement. Donc déjà, ça pose déjà un problème psychologique quand on... Voilà.
Me faites pas une crise d'utérus ce soir, s'il vous plaît, les filles.
Les anatomistes médiévaux en ont remis une couche. Hein. Ils nommaient les organes génitaux des femmes pudere, donc en latin, ce qui veut dire faire honte, tout simplement.
Super.
Donc, niveau historique, on est
bien, quand même.
Bah
bien
ouais,
chargé.
Ça, ouais, c'est ça qui est bête.
Ah bah
que...
oui. Et puis ça a continué en 1876, quand on a découvert que le clitoris ne jouait aucun rôle dans la procréation. Alors là, plaisir féminin,
ça sert à rien.
Rayé de la carte,
oui.
On s'en fiche, ça ne sert pas à grand-chose. Freud nous en a mis bien la vue aussi, puisque en 1920, voilà, il a décrété que c'était minuscule, immature. Bref, c'est des parties atrophiées. Ça sert à rien. Donc, que veut-on dire? Enfin bref. Donc ce qui fait qu'en 1948, la Bible de la médecine de Grey's Anatomy, mais G-R-A-Y, n'inclut pas le clitoris. Enfin bref, on oublie totalement certaines parties du corps. Bref, ce qui revient aux conséquences suivantes. Première chose, une analphabétisation sexuelle des filles, puisqu'on n'a pas accès à l'information sur notre propre corps. L'éducation à la sexualité dans l'éducation nationale est souvent aux abonnés absents.
Ça a changé un petit peu. Depuis 2 ans, il y a des clitos maintenant dans les magasins.
Mais
dans
tu
les
sais
manuels.
Que c'est... Ça date effectivement de 2019.
Oui.
Il y a un seul manuel, le manuel Magnard, que je vais nommer, qui, effectivement,
qui
SVT, qui en parle et qui cartographie totalement le corps humain avec l'anatomie complète du clitoris. Et oui, on en est là. Parce qu'en fait, avant, souvent même dans les médias, on parle surtout de vagin, donc on réduit les organes génitaux d'une femme à sa fonction procréatrice. Bah exactement. Et même dans les définitions du sexe féminin, on présente le sexe des petites filles comme un trou, parce que c'est un comble à manquer. Et oui, nous n'avons pas de pénis. Désolé.
Oui. Alors c'est peut-être un peu bateau. Hein, j'ai pas creusé le sujet plus que ça, mais il y avait la série Sex Education qui a sorti un petit manuel. Alors,
c'est pas mal du tout.
Ouais,
même sur Netflix. Oui. Sur Netflix, je ne peux que conseiller le documentaire Les Principes du plaisir en 3 épisodes, qui est excellent et qui justement présente les notre sexualité, les filles. Hein. Et donc, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur les...
Là, c'était vraiment... C'était surtout sur cette série qui était un effet de mode, Sex Education.
Ouais.
Ça avait fait fureur la saison 1. Il y a une saison 2. Je crois qu'il y a même une saison 3 qui est encore en cours.
Ah, bah oui.
Il y a un manuel qu'ils ont sorti, justement, sur le sexe féminin. Et c'est très détaillé. Ouais. Le fait qu'ils sont tous différents. Même les hommes, c'est tous différents. Enfin, il n'y a personne qui est mis de côté. C'est vraiment... Alors, voilà, est-ce que c'est vraiment complet ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était le support
ça,
le plus...
Ça avance le débat, et c'est vrai que même pour les enfants, il y a le petit illustré qui est sorti, avec la découverte du pénis, des testicules. Vraiment, c'est très beau, c'est vraiment sans...
Je ne sais pas si tu as vu Martine se touche le clito, c'est pas mal, hein, c'est le nouveau...
Il y a la même chose pour la vulve.
D'accord,
c'est bien ça, ça évolue.
Pour éduquer les hommes aussi.
Mais oui, mais tout à fait.
Les filles, etc. Mais notre génération, je trouve qu'au niveau des hommes, il y a un manque complet.
C'est rendez-vous en terrain connu.
Il y a eu pendant de longues années, effectivement, le plaisir.
Si vous
ne
savez pas déjà, comment
vous
voulez que nous on le sache ?
Mais on n'est pas éduqué à ça, donc forcément, on fait ce qu'on peut. Bref, du coup, ces petites filles ou ces adolescentes ne savent pas à quel sein se vouer et finissent par répondre à leurs questions à travers la pornographie. Ouais. Super, effectivement, en moyenne, un enfant à l'âge de 9 ans a accès aux premières images pornographiques. Et ça explique en fait que, par exemple, en 2016, 4000 Françaises finissent par se réduire les lèvres, les décolorent, les relissent. Bref, parce qu'on ne sait pas à quoi ça doit ressembler. Mais en fait, l'important, c'est de savoir quelles sont toutes différentes. Toutes de couleurs différentes.
Alors, on a le même problème chez nous, hein, je vous rassure.
Moi, je parle des femmes aujourd'hui, mais
la déformation des films porno, c'est pareil aussi chez nous. Hein.
Tout à fait. Et donc, on a aussi une deuxième conséquence, c'est au niveau marketing. On dit que la vulve émet des odeurs peu ragoûtantes. Alors là, il faut se la récurer, mais dans tous les sens du terme. Et ça depuis de longues années aussi également. Alors que je rappelle que le vagin est auto-nettoyant, que la vulve peut se rincer à l'eau. Et donc, il n'y a pas besoin d'être coquette jusqu'au sunset hein, quand on lit des répliques comme ça,
ce qui est dangereux,
des slogans publicitaires.
On peut attraper des IST si on détruit la fleur vaginale.
Exactement, exactement. Donc tous les produits lavants existent pour toutes les foufounes de la Terre. Mais alors... Hein, une lingette lavante pour les pénis de messieurs, ça n'existe pas. C'est moins vendu.
C'est moins vendu.
Nous, c'est dès les adolescentes, faut qu'elles soient... même les petites filles.
Alors que ça sent pas meilleur avec un pénis, mais bon, après.
Non. Mais c'est vrai que. Tout à fait. Et puis enfin, je terminerai par les conséquences dès l'enfance. Il y a un travail aussi autour un peu de la dépossession de leur corps, du corps des petites filles, de leur désir, parce que on accepte qu'un enfant, qu'un petit garçon se touche le pénis, on trouve ça oh c'est rigolo et ça fait joujou. Et puis quand c'est une petite fille, tabou, c'est l'hystérie, c'est pas bon, c'est péché, bref. Donc, je citerai quand même une dernière phrase. La vulve est le blason de la féminité qui est finalement raté, voire hideux. Les petites lèvres font protusion. De façon disgracieuse, ces excroissances pigmentées sont une injure à la féminité. C'est un collège national de gynécologie et des gynécologues et des obstétriciens français qui a dit ça. En quelle année ?
C'était début du siècle, peut-être. Ah non, c'est récent.
2008.
Ah oui.
Donc, on a un vrai travail à faire ça. Donc, dernière chose, je terminerai par... Parlons de vulve à nos petites filles, parlons de sexualité et nommons réellement les organes génitaux, justement, pour les protéger contre les pédocriminels. Voilà.
Oh là, c'est peut-être un sujet un petit peu différent. On va pas tout mélanger
la
non plus.
La connaissance, c'est le pouvoir.
Oui, merci. D'accord. On aura l'occasion. Et les prochaines chroniques, je te dis pas, ça va... On va t'engager au point G on va sur la nouvelle émission de Radio G parce que sinon...
Sans problème. Ça va être...
On va rester très familial ici. Merci Pauline. Après la pause, on va en vélo à la plage pour se faire bronzer. Mais avant, un petit peu de musique. Voici une reprise très étonnante. On écoute et on se demande si c'était mieux après.
J'ai pas le saut, mais je veux sortir faire la fête. J'évite les problèmes, les les embrouilles, les casse-têtes. Je vais me tailler sous le soleil, emmener ma chérie, mes collègues. Mes plus bons sont dans mes oreilles, aller là où le vent me mène. Ça se fait toute belle pour sortir toute la night. Ça claque le papel, cocktail, champagne en boîte. Y'a toutes ces bombes qui mettent en avant leurs atouts. Tous ceux qui bougent, qui s'ambiancent, qui savent faire les fous. Y'a du soleil et des nanas.
Alors ça, ben, ça date de 2022, c'était Yanns qui reprend avec Soleil et Nana. C'était une reprise de quoi? C'était au départ?
Darla Dirla Dada.
Ah, la gaffe, non?
Oui, non, c'était un film.
Ah oui?
Dans un film.
Ah bah oui, c'était les bronzés.
Eh oui.
Bienvenue à Galashunga, Darla Dirla Dada.
Mais ce n'est pas l'original. Alors, ça vient d'où l'original? Non, 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 c'était bien avant.
Du Big Deal.
Ah non, non, non. Alors, c'était beaucoup plus lent. Hein.
C'est une chanson à boire.
Non, 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 c'est une chanteuse.
C'est une
chanteuse?
Oui. Sheila?
Non, non, non. Ouais.
Véronique Sanson?
Non, non, non.
Garbo Greta.
Régine?
Ah, elle est morte, oui. Elle s'est suicidée.
Oh mince.
Non.
Dalida?
Oui.
Oh mais non.
Bah si, c'est Dalida.
Bon, c'était un coup de peau.
Ouais. Et ça donnait ça.
Adieu monsieur, tout est fini. Darla dirla dada. Quitte-moi.
Ah, bien de loin, hein.
Darla dirla dada. Je préférais la fleur des champs.
Vous avez modifié les paroles, quand même.
Oui.
Toi le soleil de ces vingt ans.
Darla dirla
dada. Monsieur, tu n'étais pas fidèle.
Darla dirla dada.
À ce qu'on disait mes amis.
Darla dirla dada.
Il faisait bon dans le logis.
Darla dirla dada.
Adieu monsieur, j'avais du cœur.
Alors du soleil et des nanas, bien on va en avoir aussi dans la deuxième partie de CMA sommaire. Il se remet en selle pour chroniquer et ça faisait longtemps. Bonsoir Jérémy, on parle de quoi?
Bonsoir.
Ce soir?
Bonsoir, eh bien du vélo.
Ah, du vélo, pas solaire.
Musculaire.
Ah, musculaire, c'est très bien. Elle n'a pas un grain, non non, mais des millions. Bonsoir Sandra, quel est ton sujet?
Alors, bien sous les pavés, la plage.
Oh. Oh, ok, très bien, on verra ça. Et enfin, encore une chronique qui va laisser des traces. Bonsoir Florian, de quoi on va parler?
Bonsoir, eh bien qui dit plage dit aussi bronzage.
Ok, on voilà. Va bronzer. Bon, et pour le Graal, eh bien, on fera l'amour sans sexe. C'est beau, mais frustrant quand même. Et il est temps maintenant donc, de reprendre les chroniques. Voici la deuxième partie de CMA. Dans le cadre des chroniques qui réduisent l'effet de sel, voici celui qui en connaît un rayon, le professeur Jérémy.
Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber, c'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps, un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien, mais ça soulage.
Ça date de quand d'ailleurs ce vélo qui tombe tout le temps?
Ah,
D'avant la béquille.
D'avant la béquille, effectivement. Bonne remarque, bonne remarque. C'est très, très vieux, pas trop vieux. Le siècle dernier, le siècle d'avant.
C'était les années 60.
Ah, ouais. Oh, les années 60, ouais.
Oh non, même avant. Les trottinettes, c'est considéré comme un vélo un peu.
Et bah, bonne question. Je sais pas quand ça a dégénéré en trottinette, mais ça date d'avant ça. Ah. L'histoire de la fameuse bicyclette commence en 1817, lorsque le baron allemand, c'est allemand, Karl Dre von Sauerbrunn,
enchanté,
voilà, c'est lui, s'élance sur un véhicule de son invention composé de deux roues alignées et reliées par une traverse de bois. Ce cher monsieur Dre vient d'inventer la...
Dresienne.
Dresienne, exactement. Ah, Dresienne, c'est là que ça commence.
Alors, du coup, il n'y a pas de pédale, pas de, y a rien du tout. Eh ben c'est juste avec les pieds qu'on a.
On a gardé le modèle enfant, puisque c'est encore utilisé aujourd'hui.
D'accord. Avec la grande roue devant et la petite roue derrière.
Alors, à l'époque, non, ça ressemblait vraiment à une vraie Dresienne, à un vélo même, puisque les deux roues avaient la même taille. La roue avant pouvait être dirigée grâce à, tenez-vous bien, un dirigeoir.
Oh, voilà.
On n'a pas gardé, hein, parce que finalement, guidon, ça claquait mieux. Et en France, on a d'abord appelé ça un vélocipède, parce que ça me permettait de faire avancer avec les pieds très vite. Donc vélo pour vélos et pède pour...
D'accord.
Voilà. Ouais. Okay. Bon, on avait envie de faire des mots à nous.
Oui, voilà. Bien sûr.
Finalement, ça n'aura pas tenu longtemps. Alors, il ne vous aura pas échappé que la version adulte est nettement moins en vogue aujourd'hui. Hein. Il y a eu quelques évolutions. Et à quel moment ça a dégénéré en trottinette, là, je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est comment on est arrivé au vélo. Prochaine étape, les pédales. Pédales qui sont arrivées en 1839, hein, parce que bon, la Dresienne, ça va bien 5 minutes, mais il faut trouver un moyen d'aller un petit peu plus vite. Là, par contre, on a trouvé direct un nom qui claque et qui reste. Hein, c'était pédale dès le départ.
D'accord. Voilà. Donc c'est pédestre, c'est ça, c'est
alors, bonne question. Là, j'ai pas l'étymologie, mais oui. Ça ressemble quand même pas mal à pied. Hein. Donc l'adoption reste timide, puisque la roue tourne à la même vitesse que les pédales. Donc c'est un peu limité.
Si on en descente, les pédales continuent et donc tu les prends dans les pattes.
Exactement. Voilà.
Il faut écarter les jambes.
Et puis, pour freiner, c'est les pédales aussi. Donc voilà.
Oui.
Alors, on a gardé là encore la version enfant, hein, puisque c'est le tricycle dans les écoles. Hein. C'est le même principe.
Ah, oui, d'accord.
Les pédales sur la roue avant,
c'est vachement dangereux. Quoi.
Voilà, dès qu'on volait un petit peu plus vite. Pour augmenter la vitesse, une seule solution, du coup, augmenter la taille de la roue. Et c'est ça qui donne naissance au grand bi.
Grand bi, oui, d'accord.
Le fameux grand bi avec une roue avant totalement démesurée qui est apparue en 1870. Particulièrement dangereux, du coup, puisqu'au moindre trottoir, la probabilité de faire un soleil est relativement grande.
Et
pour monter dessus,
ça faisait
dessus,
un
vrai acrobate. Hein. Donc c'est resté quelque chose d'assez.
Du coup,
élitiste.
Toujours pas. En fait, il n'y avait pas de chaîne. C'est ça.
Voilà.
C'était directement lié.
Excellente transition, Bruno. Merci. Prochaine étape, 1880, la chaîne. Justement, on peut enfin démultiplier le mouvement des pédales pour le transmettre à une roue de taille beaucoup plus raisonnable et de préférence à l'arrière du vélo pour pouvoir récupérer ce fameux dirigeoir qu'on va appeler désormais un guidon. Mmh. Et sans surprise, la première bicyclette moderne sera appelée bicyclette de sûreté, car bien moins dangereuse que son ancêtre, le grand bi.
D'accord.
Voilà. Et en 1900, on arrive déjà, tout va très vite. Hein, une fois qu'on a la chaîne, le guidon, les roues, on arrive très rapidement, et les pédales, on arrive très rapidement aux fondamentaux du vélo moderne. Et on retrouve dès 1900 le freinage à patins et les pneumatiques gonflés, puisque jusqu'à présent, c'était
Du bois,
juste une bande de cuir ou du bois. Donc voilà, c'était pas hyper
Les roulements
confort.
À billes, ils existaient déjà ?
Alors les roulements à billes, c'est une invention qui va venir un petit peu plus tard, qui va venir améliorer, mais pas changer fondamentalement le fonctionnement du
vélo. Parce que pour l'instant, il n'y a que des...
C'est que ça va durer plus longtemps.
Oui, mais là même
alors
avec
non,
la chaîne...
on parle d'autre chose.
Ah, d'accord.
Ce n'est pas les roulements à billes qui nous intéressent, mais la roue libre. Puisqu'effectivement, un des derniers gros problèmes de ces vélos modernes, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les fameux fixés, hein, qui sont encore très utilisés, c'est que là encore, les pédales sont en prise directe avec la roue. Donc ça veut dire que plus le vélo va vite, plus les pédales vont vite, et on ne peut pas se reposer dans les descentes. Et un des gros problèmes qui restait donc, au début du siècle dernier, c'est que les vélos restaient dangereux à cause de ça. Et les gens se blessaient souvent assez sévèrement aux pieds, justement, parce qu'ils perdaient les pédales.
Ah oui.
Voilà. Donc, dernière grande innovation qui va populariser définitivement l'usage du vélo, c'est la roue libre, qui permet justement à la roue de tourner, dans un sens bien sûr, pendant que les pédales restent fixes. Et donc, qui permet de se reposer dans les descentes, est impossible désormais de perdre les pédales. Tout le reste finalement est accessoire, hein. On va voir arriver ensuite pendant le 20e siècle le dérailleur pour changer les vitesses, le frein à disque, l'indexation des vitesses, tout ça, ça apporte du confort, mais ça ne révolutionne pas finalement le vélo qui, dès le début du 20e siècle, existe dans sa forme moderne. Aujourd'hui, le vélo connaît une nouvelle jeunesse avec l'assistance électrique, beaucoup de nouvelles formes de vélos qui arrivent, avec tout ce qui est vélo cargo, qui permettent de transporter plein de charges.
Est-ce que tu as les dates, vélo homme, vélo femme? Est-ce que c'est dès le départ, on avait pensé?
Dès le départ, ouais, dès le départ, donc dès 1900.
Il y avait des cadres surbaissés pour que les femmes
aient. Dès les premiers vélos. D'accord. Et à l'époque, c'était très. Enfin, c'était normal. Même dès l'avènement de la drazienne, en fait, c'était normal de voir des hommes d'affaires finalement sur des drazienne. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Mais en fait, c'était très répandu, puisque à l'époque, les voitures n'existaient pas.
D'accord.
Donc ça a été quand même le premier moyen de déplacement.
Mais on a adapté à la morphologie féminine.
Oui,
le vélo.
Dès les premiers modèles, je dirais 1900, ouais, on voit tout de suite des pubs de vélo justement
pour
avec
femme.
Des cadres en cygne pour pouvoir faire du vélo en robe, puisque finalement
c'était
la contrainte,
problème,
hein, tout simplement. Donc on trouve aujourd'hui toutes formes de vélos, hein, des vélos couchés, des tandems, des tandems hybrides assis, couchés, des vélos carénés.
Ah oui.
Donc pour être à l'abri de la pluie, on trouve également des trikes qui sont quasiment des petites voitures carénées avec 3 ou 4 roues. Et donc la nécessité aujourd'hui de repenser notre mobilité va sûrement amener de nombreuses nouvelles formes et usages du vélo dans les années à venir. Le vélo qui est aujourd'hui un vélo musculaire pour le différencier des vélos électriques qui arrivent justement sur le marché.
D'accord.
À l'époque, hein, on ne faisait pas la différence.
Enfin, c'est des aides.
Voilà. Alors on a les deux. On a les vélos à assistance électrique
oui.
qui donc sont bridés à 25 km/h avec simplement une aide au pédalage.
Mm-hmm.
Et on a aussi les vélos électriques. Alors je ne sais pas exactement quel est le terme, qui eux sont immatriculés.
Bah, c'est des volomoteurs, quoi.
Alors ça devient presque des vélomoteurs effectivement, qui ont toujours la forme d'un vélo avec des pédales, mais qui ont une assistance beaucoup plus importante qui leur permet de dépasser les 25 km/h. Donc là, il faut de la signalisation et une plaque d'immatriculation pour pouvoir circuler avec.
D'accord.
Donc voilà, on a quand même bien amélioré le modèle depuis l'origine. Ça va encore continuer, donc je pense qu'on est tous d'accord, c'était mieux après.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Merci Jérémy. Allez, on tourne une plage maintenant pour s'ensabler. Et d'une, ça va gratter. Et de deux, on va se marrer. Voici la chronique de Sandra.
Sur toutes les plages du monde, sur toutes les plages, il y a des mots qui font signe au bateau.
Jean-Louis Aubert pour ton jingle.
Oui, c'est ça, merci. Une belle chanson. Pour une fois, je la reconnais. Donc, sous les pavés, la plage. Ce slogan de mai 68 pourrait être le hymne de nos vacances quand nous arpentons les trottoirs inondés de soleil et qu'au bout se profile un mirage, la plage. D'ailleurs, petite anecdote déjà, c'est pourquoi on disait sous les pavés, la plage.
Bah, c'était parce en 68.
Y a du sable
oui.
sous les pavés
oui,
les pavés
ça,
étaient mis sur du
ça.
Sable.
Oui,
ça,
c'est
hein.
ça. Donc, voilà. Donc, on a découvert qu'effectivement, sous les pavés, il y avait du sable. En fait.
On peut le voir en ce moment sur Angers, hein, d'ailleurs.
Parce qu'il
y a plein, ils mettent plein de pavés partout.
Avec
c'est à moitié détruit.
Donc pourtant, cet enthousiasme en fait, d'enfiler les maillots de bain et de plonger dans la mer n'a pas toujours été aussi inné et aussi évidente. Donc en effet, au Moyen-Âge et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le littoral était considéré comme un paysage sauvage et dangereux, voire mortel, avec le bord des falaises. L'eau de mer dans l'imaginaire pouvait apporter des maladies. On pensait qu'il y avait plein de microbes, en fait, inconnus dans l'eau. Et en plus, dans l'immensité bleue des vagues, on va dire, se cachaient des monstres marins.
Évidemment. Ce qui n'est pas faux.
Ce qui n'est pas si faux. On ne connaît pas tout encore. Effectivement. Il y a le triangle des Bermudes aussi. J'en ai pas parlé, mais
aussi,
par exemple.
Aussi.
Pendant longtemps, les océans étaient le lieu des explorateurs et des pirates. Et la mer et son littoral étaient plutôt associés à l'aventure, l'inconnu. Le danger où les bateaux faisaient naufrage avec les tempêtes. En un mot, la mer faisait peur. D'ailleurs, on allait plutôt en vacances en montagne, en fait, à l'époque. Donc pourquoi alors un tel engouement pour les plages ? Comment cette vision négative, en fait, s'est-elle transformée en un lieu de détente, on va dire, ou de bonheur absolu ? On doit cela à l'apparition des premières stations thermales vers 1840. Et j'ai oublié en fait de savoir quelle est la première station thermale.
Mais alors donc tu veux dire qu'avant 1840,
ouais.
il y avait personne sur les plages, on n'y allait pas, il y avait que les marins
bah,
et
en
tout
fait,
ça. Mais
non, parce que on va dire
les gens
allaient
pas
peut-être,
du tout...
mais c'était pas encore démocratisé. En
d'accord.
fait, ça a commencé à se démocratiser vers 1840.
C'est récent.
Oui, c'est très récent.
Après, c'est aussi avec l'arrivée du train.
Enfin, oui,
je pense
puis,
que
puis
les premières
les vacances.
Stations
oui,
balnéaires,
voilà,
ça va être
ouais,
ça va être Biarritz,
aussi,
ça va être
ouais.
le midi aussi. Bon, les vacances en 1840.
Non, mais après. Oui. Ce qui a vraiment démocratisé, c'était l'arrivée des vacances.
Oui, en fait, la première station thermale au tout début, parce que en fait, le rapport à l'eau change et devient hygiéniste. Mmh. C'est-à-dire, l'eau devient synonyme de pureté, de fraîcheur et surtout de santé au fait.
Vichy peut-être en 40.
Tu dis oui, Vichy. Non, bah non,
alors, la mère à Vichy, disons qu'elle n'arrive pas. Elle a du mal un peu à y arriver.
Station thermale.
Oui, d'accord, ok.
Ouais, je sais pas.
Mais là,
en fait, je l'ai.
Mais si c'est par rapport à la mer, c'est plus la thalasso, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais, en fait, on doit, du coup, on va dire que c'est les médecins, en fait, et puis sûrement certains scientifiques à qui on doit ce rapprochement avec l'eau, puisqu'il était conseillé de se plonger dans l'eau froide pour soigner l'eczéma, les morsures de chiens enragés aussi.
Bien sûr.
Et puis la dépression,
d'accord,
par exemple.
Bah, Eric Azaray sort de ce corps. C'était sa méthode à elle aussi.
Les bains de mer, en fait,
oui, ah oui,
deviennent le remède idéal pour toutes sortes de maux. On doit aussi l'image positive de la mer aux écrivains et aux peintres romantiques. Par exemple, je sais pas, pour la dépression, par exemple. L'idée qu'on contemple, en fait, l'horizon, la mer, vous voyez, cette
puis
idée-là.
Le bruit des vagues, ça rend zen aussi, c'est bien, ça.
Et je sais plus, je crois que c'est en 1840 aussi qu'on a commencé à peindre la mer, en fait.
D'accord, en bleu. C'est pour ça, donc, elle est bleue.
Non, elle est bleue à cause du reflet du ciel.
D'accord,
des
lignes, ok.
Je crois, hein, c'est ça. Ces bains de mer restent encore très pudiques. On se baigne avec des costumes de bain qui couvrent totalement le corps et d'un chapeau, car autant l'eau devient bénéfique, mais le soleil, lui, c'est l'ennemi numéro un. On en avait déjà parlé, il me semble, avec le parapluie à l'époque. Mmh. Et en fait, il ne faut pas bronzer, car un teint hâlé, c'est appartenir à la classe laborieuse, populaire.
Mais c'est ce qu'on va voir justement tout à l'heure,
qui est associé, ouais. Ah oui, au travail des champs. Mmh. Les messieurs, jusqu'en 1930 quand même, devaient porter une sorte de marinière short et torse, en fait, couvert, sous peine d'amende.
Ah, carrément.
Ouais. Et on installe des cabines de plage qui sont tirées par des chevaux pour que les dames puissent se déshabiller, mettre et enlever leur maillot de bain sans le regard d'autrui. Mmh. Par la suite, en 1920, les maillots de bain sont un peu plus moulants et moins couvrants. En 1932, on invente le pyjama de plage.
C'est magnifique.
En 1926, on met un poncho en fait sur ses épaules, enfin un grand poncho, et le bikini apparaît en 1946. La plage, il faut savoir qu'au début, elle était compartimentée. Il y avait une partie pour les hommes, une partie pour les femmes, une partie pour les familles.
Ah oui, voilà. D'accord.
Okay. Et ensuite, c'est devenu mixte. Et puis,
là, oui, enfin, il y a pour les nudistes, pour les gays,
aussi,
pour
voilà,
les compartiments aussi, encore aujourd'hui. Hein.
Bah, les plages naturistes, c'est vers les années 55-60, il me semble.
D'accord.
Voilà. En 1936, bah, évidemment, la loi sur les congés payés est votée. Et là, les vacances sont pour toutes les classes sociales, puisqu'avant, c'était plutôt les classes supérieures, en fait, qui allaient, voilà, qui profitaient de la mer, on va dire. Et donc le chemin de fer, effectivement, se développe et les trains, on va dire que les trains se développent dans les villages et on peut enfin accéder plus facilement en fait au bord de mer. D'ailleurs, il y a aussi, enfin moi je sais que dans le petit village où je suis, enfin où je suis, j'ai une maison vers là-bas en fait et en fait avant il y avait des trains en fait. Enfin, en fait c'était, il y avait même
le train arrivait presque sur la plage quoi.
Ouais, enfin je sais que la maison où je suis, j'ai une image d'archive en fait où les gens attendaient le train juste devant en fait.
D'accord.
Voilà, maintenant il y a la maison mais voilà.
On et sort en fait, et on est à la plage.
Et la plage était à 15 minutes à pied quoi. D'accord. Mais il y avait un train et ce qui n'existe plus évidemment. Maintenant oui. C'est voilà, faut la voiture quoi. Et du coup, la plage devient un lieu de vacances et de loisirs. Et alors toi, tu as dit Biarritz, c'est ça, mais il me semble qu'il y avait quelques villes du sud, mais pas le sud, c'est pas le sud en fait qui a, enfin le sud n'a pas été tout de suite aménagé en fait en plage, il me semble.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'était plus la Normandie, d'accord. Voilà, la Normandie.
Plus proche de Paris, on va dire,
ouais,
déjà.
Qui a été pris d'assaut et quelques villes du sud, mais en fait, on s'est aperçu que les Français en fait partaient vers l'Espagne à l'époque, parce que justement, les plages du sud n'étaient pas aménagées, sécurisées. Donc c'est pour ça, en fait, pour les faire revenir ici, bah, on a commencé à construire finalement des plages artificielles, on va dire. Alors, exemple de plage artificielle, ça s'appelle... alors, le mot, ça s'appelle engraisser. Engraisser la plage.
Ah
donc,
ouais,
je ne savais pas, mais voilà. Et donc, par exemple, à Nice, on a rajouté 6000 mètres carrés de galets pour embellir la plage.
C'est pas une...
Non, c'est la promenade des Anglais, c'est ça que tu veux dire.
Devant le micro, si tu parles. Quoi.
Je veux dire qu'une plage de galets, c'est pas une plage. Mais après, c'est juste...
Ah oui, d'accord, oui.
Il est pas
oui.
Content.
Va dire ça une histoire. Va dire ça une histoire.
Bah, va dans le Nord.
En même temps, il y a beaucoup de plages où
va dans le Nord, il n'y a pas de galets.
Il y a du sable et des galets, quand même. Ouais. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Non, mais c'est vrai que marcher sur des galets, c'est pas terrible.
Et donc, on construit aussi des hôtels pour accueillir les estivants, ou encore, on remarque, les casinos aussi.
Oui.
Ça devient, du loisir aussi et du jeu. Les casinos sont toujours au bord de la mer, souvent. La plage doit faire rêver. Bien loin des marins pêcheurs ou de la pêche à la moule, on va à la plage pour se montrer maintenant, jouer et bronzer. Alors si vous n'avez pas l'occasion de vous évader loin de la ville, je vous conseille le film documentaire qui s'appelle Les plages d'Agnès de Agnès Verda. Est-ce que quelqu'un connaît ?
Oui.
Oui, voilà. Donc voilà, il est très intéressant et donc elle dit « Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on ouvrait, on trouverait des plages. »
C'est beau, voilà. Ça rime. Très bien, merci Sandra. Allez, il est la crème des chroniqueurs. Pour vous aider,
mais quoi ?
Un indice, Wikipédia. Voici le coup de soleil de Florian.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que tu me rappelles, si c'est un rêve, t'es super belle.
Qui c'est qui chante ?
Angèle.
Oui, bravo. Alors ?
Eh bien non Bruno, je n'ai même pas regardé Wikipédia pour écrire cette chronique.
Ah !
Je suis bravo. Fier.
Il était au soleil, c'est il n'avait pas accès à Internet.
Et pourtant, on m'a prévenu qu'il fallait que je fasse une chronique à la dernière minute.
Alors que d'habitude, il le préparait largement avant.
Ouais. Donc, le bronzage.
Oui.
Voilà. Alors, Sandra, t'en as déjà dit un petit peu, justement, petit sur, peu. Sur un peu l'histoire du bronzage et pourquoi on bronze ou on bronze pas, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, je vais revenir un petit peu dessus. Déjà, dans la Grèce antique, en fait... les femmes s'enduisaient la peau
de Grèce antique.
La peau du visage, non, avec du blanc de céruse.
Alors, c'est
du blanc de céruse à base de plomb. Donc elles se mettaient du plomb sur le visage.
Super.
Donc autant dire que c'était très 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 toxique.
Indice, ça, à l'époque, mais c'était indice 90,
on ne le savait pas. Ah bah c'était indice bien, je pense à mon avis.
Oui, bah Iron Man.
Ça attaquait à mon avis bien la peau, plus que le soleil.
Mais tu bronzais pas.
Et donc du coup, c'était pour pas bronzer parce que justement la peau blanche était un gage d'appartenir de pureté, en tout cas à des classes sociales.
Ce que disait tout à l'heure, on travaille pas dans les champs.
Tout à fait, voilà. Et donc ça a perduré pendant très 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 longtemps, puisque déjà à l'ère chrétienne, donc quand encore la religion arrive, la pâleur révèle la haute lignée, et donc c'est réservé aux classes supérieures, aux classes sociales les plus élevées, l'aristocratie. Et donc les femmes, c'est pareil, ne bronzent pas, les hommes aussi, il ne faut pas du tout bronzer, il ne faut pas du tout se mettre au soleil, puisque les personnes au teint hâlé sont réservées effectivement qu'aux classes laborieuses, aux paysans, aux soldats aussi, aux marins, enfin tous ceux qui sont vraiment dans une dynamique de travail ingrat. Puisque la candeur, en plus, la blancheur, associée à la virginité et l'innocence, était une valeur d'avenir, et le noir renvoyait au diable, au péché, à tout ce qui était mauvais. Voilà, donc là, on fait le lien aussi avec le blanc, race entre guillemets supérieure, sur les personnes noires.
Le sang bleu qu'on voyait,
ça,
etc.
Voilà, c'est exactement les mêmes concepts de ça. Et c'est qu'à partir des années 1930, justement, où il y a un changement et où le bronzage devient accepté et plutôt tendance. Alors, ça vient justement du courant hygiéniste, comme tu l'as dit, Sandra. Puisqu'on prône maintenant l'eau, la mer, les plages. Alors, il faut attendre encore un petit peu, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, on se baigne encore tout habillé. Mais à partir des années 30, on commence à se baigner plus habillé. En tout cas, on raccourcit un peu plus l'habillement de baignade. Voilà.
Et on enlève les protections solaires, du coup ? Il n'y avait pas de crème.
Non.
On avait abandonné, parce que là, tu dis le plomb au départ, c'était abandonné. Ça.
Ah non, mais ça, oui, ça s'est abandonné depuis bien longtemps.
Et donc là, au tout début, on commence à enlever les vêtements, mais pas de crème.
Ça
devait bien, brûler quand même. Hein.
Ah ça, après, c'est comme ça. Donc voilà, donc avec l'héliothérapie, le naturisme, les activités sportives, le plein air, les congés payés, tout ça, c'est à la mode. Et donc, on va à la plage et on bronze. Puisque, à contrario, le blanc, maintenant, devient signe de vieillesse, de morbidité, de maladie et de passivité. Voilà, donc c'est pas du tout bien vu d'être blanc. Enfin, d'être pas bronzé, en tout cas.
D'être malade, ça fait malade, quoi.
Ça fait malade, effectivement. Donc ça, c'est un petit tour d'historique. Alors, peut-être, maintenant, je vais vous parler des techniques pour bronzer.
Ah oui.
Justement.
Parce que bronzons là, alors, bien.
Pour pas bronzer, effectivement, vous vous habillez, vous mettez un truc sur la gueule, vous bronzerez pas.
D'accord.
Enfin, il faut que ce soit assez étanche au soleil, bien sûr.
Il y a aussi des crèmes à mettre.
Et, effectivement, il y a des crèmes. Alors, je vais vous parler déjà des choses pour bronzer.
Voilà.
Pour bronzer. Alors, c'est au début des années 80 que les UV artificiels font leur apparition. Donc, les cabines à UV, tout ça. Donc c'est un bon succès encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui
les cancérologues adorent,
qui se font bronzer.
Oui.
Et donc les gens vont se faire bronzer en cabine avant bien sûr qu'on découvre leur nocivité assez importante.
C'est marrant parce qu'on rigole tout à l'heure avec le plomb en disant mais qu'est-ce qu'ils étaient cons. Et,
ben
et
oui.
Voilà, il y en a encore des magasins aujourd'hui quoi. Donc dans quelques générations, ils diront mais qu'est-ce qu'ils étaient.
Alors aujourd'hui, peut-être que les choses sont moins fortes qu'à une époque, mais ça reste de toute façon nocif et effectivement favorise les cancers, notamment de la peau. Et donc l'industrie cosmétique aussi s'y met, donc effectivement on invente des crèmes, des gélules auto-bronzantes, enfin tout ce qui est auto-bronzant.
Ah oui, mais là c'est pas par rapport au soleil, c'est juste pour changer la couleur.
Alors, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que le bronzage, les UV, quand on fait de l'UV, on bronze, c'est du bronzage naturel.
D'accord.
Puisque ça fait en sorte de faire la réaction de la peau et ça, on produit de la mélanine, qui est la réaction normale du corps humain, puisqu'on bronze avec les UVA et les UVB. Tout ce qui est crème et tout ce qui est auto-bronzant, en fait, ça ne fait, enfin, la réaction naturelle de bronzage ne se fait pas, donc en fait, c'est pas du bronzage, c'est effectivement de la coloration simplement de la peau, puisque dans les auto-bronzants, il y a de la présence de DHA, qui réagit avec les cellules de l'épiderme, en fait, et qui colore, alors qui colore en brun, qui noircit, en fait, et c'est pour ça qu'on, en fait, on a le sentiment qu'on bronze, mais en fait, on bronze pas du tout. D'ailleurs, on bronze pas, donc on ne se protège pas.
Alors, par contre, oui, ça peut être dangereux.
Voilà.
Mais d'un autre côté, on peut avoir un teint allé sans avoir eu le danger d'être exposé au soleil.
D'être exposé
donc, c'est
au
bien
soleil.
Aussi.
Voilà. Mais le jour où on s'expose, par contre,
il faut mettre de la crème dessus.
Il faut mettre de la crème. Voilà. Et donc, le bronzage, en fait, le vrai bronzage naturel, c'est en fait une protection, du coup, contre le soleil et contre les UV, puisque le corps se protège du soleil en bronzant, en ayant un teint plus
allé.
Plus allé. Plus foncé, voilà.
Alors voilà. Les protections, les crèmes.
Les protections. Ah non, juste pour bronzer, on voit souvent des personnes qui mettent du monoil sur la plage.
Oui, de l'huile.
Où ça sent bon, ouais, tout ça.
Des huiles de bronzage.
Alors
ça.
Une idée reçue, c'est que le monoil fait bronzer.
Ouais.
En tout cas, on en met pour bronzer, alors que pas du tout. Ça ne fait pas bronzer du tout.
Ah bon?
Ah non, c'est pire que ça.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une huile. Donc en fait, ça fait friture sur votre peau. Donc vous allez rougir si vous mettez en plein soleil avec du monoil.
Ah bon.
Comme la graisse à traire aussi.
C'est ça.
Et c'est
faux alors.
Ah bah vous.
C'est juste du gras quoi.
Oui.
Et ça fait pas bronzer.
C'est du gras.
Ah non.
Ça fait pas bon.
Bah
il faut. Mais c'est vendu comme ça.
Ouais.
Eh oui mais il faut pas.
Donc
c'est
ça,
pas.
Ça,
certains
ça.
Ont des indices maintenant mais c'est en général c'est hyper c'est bas
ça.
Quoi.
Ça sert à rien quoi.
C'est pas un bronzant.
Ok.
Alors les choses pour
rapidement ouais pour finir
en tout cas pour se protéger donc principalement la crème solaire.
Oui.
La crème solaire avec les indices, donc qui protège contre le passage des UVA et des UVB. Donc plus l'indice est élevé, moins le passage des UV intervient.
Ouais.
Et donc moins et plus vous protégez contre le soleil, ce qui n'empêche pas de bronzer d'ailleurs. La crème solaire n'empêche pas de bronzer. Il n'y a aucune crème solaire qui protège à 100% contre les UV. Donc
si la peinture blanche.
Le terme.
Tu respires plus après.
D'ailleurs, le terme écran total qu'on voyait pendant longtemps, c'est marqué écran total sur les trucs. En fait, il est interdit aujourd'hui. On ne peut plus utiliser ce terme-là,
d'accord.
Ce terme commercial d'écran total.
C'est mensonger, ouais.
Puisque c'est effectivement mensonger. Voilà. Et puis après, bon bah les protections. Effectivement, si vous êtes habillé, vous n'allez pas bronzer. Hein. Si le tissu est épais, vous bronzez pas. Le chapeau.
Alors attention, on peut bronzer aussi sous un parasol. Hein.
Oui, bah il faut que le tissu soit
sur la peau, quoi.
Soit opaque.
C'est
et
pas parce qu'on
pas
est à l'ombre qu'on
ne
bronze pas.
Effectivement. Ah oui. Et faire attention aux nuages aussi.
Aussi.
C'est pas parce qu'il y a des nuages que vous n'allez pas bronzer et que les UV vont pas passer.
D'accord. Bon, bah écoutez, soyez prudents. Donc, pour bronzer, merci en tout cas. Allez, on va parler d'amour maintenant avec le Graal, le billet qui répond aux auditeurs. On lui a demandé s'il pouvait y avoir de l'amour sans sexe. Eh bien, la réponse princière du Graal, c'est maintenant.
Question de Nicole. Y a-t-il des histoires d'amour sans sexe?
Dans la vie, je ne sais pas, mais dans la littérature, oui. Je m'en vais te conter l'histoire de la princesse de Clèves et du duc de Nemours. Ce roman d'amour, écrit par Madame de Lafayette en 1678, du temps de Louis XIV, se passe en 1550. Mais cela met bien en avant ce qu'on appelait à l'époque l'amour vertueux. On a deux protagonistes, une princesse et un duc. Lors d'un bal, ces deux-là s'envoient des regards coquins pendant un bon moment. Et puis, comme dans tous les bals, on danse et ils se retrouvent main dans la main sur le dance floor. Le coup de foudre immédiat est pour les deux. Vous dites « Nickel, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Point. Bah non, la princesse est déjà mariée. Et c'est avec un courage et une force surhumaine qu'elle va résister à la tentation. Elle en parlera même à son mari et lui restera fidèle. Lorsque celui-ci va à mourir, on se dit que le duc va enfin pouvoir jouir de son amour. Raté. Il va se la mettre sur l'oreille car la morale imposée par la société sera plus forte que l'amour, toujours présent pourtant. Alors oui, il existe des histoires d'amour sans sexe, même sans rien du tout en fait.
C'était le Graal. Vous pouvez poser vos questions sur le compte Instagram ou Facebook Question Graal. Il devra y répondre en une minute. Lâchez-vous, hein, on aime les défis. C'est bientôt la fin de l'émission. On va bientôt découvrir, tapez pas sur la table encore, on va bientôt découvrir le CMA Plus de la semaine. Mais avant, un peu de musique qui fait du bien. Voici Harry Styles avec As It Was. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Stay. C'était Harry Styles avec As It Was. Allez, il est temps de découvrir le CMA+ de la semaine. C'est moins virulent qu'à la dernière émission. C'est... Pas de petite réflexion.
C'est parce que cette fois-ci, c'est avec les vulves.
C'est ça change de la dernière fois. Ah là là. Bon, alors, chaque semaine, un panel d'auditeurs donne son avis sur les chroniques de l'émission précédente. Suite à un vote, un sujet rentre dans les podcasts plus de Radio G. Alors, qui cette semaine a remporté le CMA+? La semaine dernière, on a eu les tongs, le Levi's, le briquet, les blockbusters, les chewing-gums et les tubes de l'été. Alors, attention à l'indice, si je vous dis, tous les goûts sont dans la nature. Eh ouais, voilà, c'est les chewing-gums qui ont gagné cette semaine. C'est donc Mathias, qui remporte son deuxième CMA.
Oui.
Bravo Mathias, en tout cas. Merci aux chroniqueurs et queuses de ce soir. Merci Caro.
Merci.
Merci Pauline. Merci Florian.
Merci.
Merci Mathias.
Merci, bonne soirée.
Merci Sandra.
Merci.
Merci Jérémy.
Merci.
Merci Olivier. Merci Alan. Tu dis bonjour au micro ?
Bonjour.
Eh ben c'est tout mignon, voilà. On a des auditeurs très jeunes. Hein. Allez, on se retrouve très vite sur les ondes ou dans les podcasts. Cherchez CMA et vous nous trouverez. D'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.